Chapitre 4, dans lequel Sophie est délivrée de sa prison. Monsieur Weston et le curé, car l'hôte était alors occupé ailleurs, fumaient leur pipe ensemble quand on leur annonça l'arrivée de la dame. Monsieur Weston n'entendit pas plutôt prononcer son nom qu'il courut au bas de l'escalier pour lui donner la main, car il était grand observateur de cette sorte de cérémonial, surtout avec sa sœur, pour laquelle il avait un respect plus profond que pour toute autre créature humaine, quoiqu'il ne voulût pas l'avouer, et n'en sut peut-être rien lui-même. Mrs. Weston, en entrant dans la salle à manger, se jeta dans un fauteuil et se mit à haranguer en ces termes. Personne, assurément, n'a voyagé d'une manière plus intolérable. Je crois que malgré tous les actes du Parlement sur l'entretien des routes, elles sont devenues plus mauvaises que jamais. Eh, mon frère, comment avez-vous pu venir vous loger dans cette odieuse maison? Je pourrais jurer qu'aucune personne de condition n'a jamais mis le pied ici avant vous. Je n'en sais rien, dit Weston, mais je trouve le logement assez bien. C'est l'hôte qui me l'a recommandé. J'ai pensé que, connaissant beaucoup de gens de qualité, il pouvait mieux qu'un autre m'indiquer le lieu où je pourrais en rencontrer. Fort bien. Et où est ma nièce? Avez-vous déjà été chez Lady Bellaston? Oui, oui, votre nièce est en sûreté, elle est là-haut dans sa chambre. Comment? Ma nièce est dans la maison? Elle ne sait donc pas que je suis ici? Non, personne n'a pu le lui dire, car elle est enfermée sous clé. Je l'ai mise en sûreté, j'ai été la chercher chez Milady, ma cousine, le soir même que je suis arrivé en ville, et j'ai constamment veillé sur elle depuis. Elle ne peut pas plus se sauver qu'un renard pris dans un sac, je vous assure. Bonté divine, qu'entends-je? Voilà une belle besogne que vous avez faite. Voilà le fruit de mon consentement à vous laisser venir en personne à Londres. Je l'avais toujours craint. Mais non, c'est à votre mauvaise tête que tout cela est dû, et je n'ai pas à me reprocher d'y avoir jamais consenti. Ne m'aviez-vous pas promis, mon frère, que vous ne prendriez aucune de ces mesures violentes? N'est-ce pas ainsi que vous avez forcé ma nièce à s'enfuir de chez vous? Avez-vous le projet de lui faire faire encore une pareille démarche? De par tous les diables, s'écria Weston en jetant sa pipe à terre, a-t-on jamais entendu chose semblable? Quand je m'attendais que vous m'auriez félicité de tout ce que j'avais fait, me voir tomber sur le corps de cette manière. Comment, mon frère, vous ai-je jamais donné la moindre raison de penser que je vous féliciterais d'enfermer votre fille sous clé? Ne vous ai-je pas souvent dit que dans un pays libre, on ne doit pas exercer sur les femmes un pouvoir aussi arbitraire? Nous sommes aussi libres que les hommes, et je voudrais de tout mon cœur n'être pas obligé de dire que nous méritons cette liberté mieux que vous. Si vous voulez que je reste un moment de plus dans cette misérable maison, ou que je vous reconnaisse jamais pour mon frère, ou que je m'occupe à l'avenir des affaires de votre famille, j'insiste expressément pour que ma nièce soit mise en liberté à l'instant même. Elle prononça ces derniers mots d'un ton si impérieux, debout, le dos au feu, une main derrière elle et une prise de tabac dans l'autre, que je ne sais si Talestris, à la tête de ces Amazones, eut jamais une figure plus imposante. Il ne faut donc pas s'étonner si le pauvre Weston fut obligé de céder à la crainte qu'elle lui inspira. « La voilà, s'écria-t-il en jetant la clé sur la table. La voilà, faites tout ce qui vous plaira. » Je n'avais d'autre intention que de la tenir enfermée là-haut jusqu'à l'arrivée de Blifil à Londres, ce qui ne peut pas être long. Maintenant, s'il arrive quelque mal d'ici là, souvenez-vous quel est celui de nous deux qu'il en faudra blâmer. J'en réponds sur ma vie, mais je ne m'en mêlerai qu'à une seule condition, et la voici. C'est que vous remettrez le tout entièrement à mes soins et que vous ne ferez rien de votre côté, à moins que je ne juge à propos de vous dire d'agir. S'il vous convient, mon frère, de ratifier ces préliminaires, je ferai encore tous mes efforts pour sauver l'honneur de votre famille. Sinon, je continue à rester neutre. Je vous en prie, monsieur, dit le curé, laissez-vous aller cette fois-ci au conseil de madame. Il est possible qu'en conversant à l'amiable avec la jeune madame Sophie, elle en obtienne davantage que vous n'avez pu le faire par des mesures plus rigoureuses. Qu'est-ce que tu me chantes là? S'écria Weston. Si tu te mets à babiller, je t'étrillerai de la bonne manière. Fille, mon frère, répondit Mrs. Weston, est-ce là le langage dont on se sert avec un ecclésiastique? Monsieur Supple est un homme de sens, et vous donne le meilleur conseil que vous puissiez suivre. tout le monde sera, je crois, de son opinion. Mais je dois vous dire que j'attends une réponse immédiate à mes propositions catégoriques. Ou laissez votre fille à ma disposition, ou gouvernez-la entièrement d'après les règles de votre prudence admirable. Et alors, en présence de M. Supple que voici, j'évacue la garnison et vous renonce, vous et votre famille, pour jamais. Je vous en prie, dit le curé, laissez-moi servir de médiateur entre vous. Permettez-moi de vous supplier. Et quoi, la clé n'est pas sur la table, s'écria Weston. Elle peut la prendre si elle veut. Qui l'en empêche? Non, mon frère, répondit la dame. J'insiste sur cette formalité, qu'elle me soit remise entre les mains, ainsi que la ratification pleine et entière de toutes les concessions stipulées entre nous. À la bonne heure, je vais vous la remettre. La voilà, dit Weston. Vous ne pouvez m'accuser assurément d'avoir jamais refusé de vous confier ma fille. Elle a demeuré avec vous plus d'une année entière de suite, sans que je l'aie vue une seule fois. Et il aurait été heureux pour elle d'avoir toujours demeuré avec moi. Aucun événement de cette nature ne se serait passé sous mes yeux. Oh oui, certainement, je suis le seul à blâmer. Oui, vous êtes à blâmer, mon frère. J'ai été souvent obligé de vous le dire, et je serai toujours obligé de vous le répéter. Cependant, j'espère que vous vous corrigerez, et que vous recueillerez de vos fautes passées assez d'expérience pour ne plus déjouer par vos bévues mes sages combinaisons. La vérité, mon frère, est que vous n'êtes point propre à ces sortes de négociations. Tout votre plan de politique est mauvais. J'insiste donc encore une fois pour que vous ne vous mêliez de rien. Souvenez-vous seulement de ce qui s'est passé. Palsambleu, ma sœur, vous voulez donc que je vous dise des injures? Il ne faudrait qu'une femme comme vous pour provoquer le diable. Allons, encore toujours la vieille habitude. Je vois, mon frère, qu'il n'y a pas moyen de parler avec vous. J'en appelle à M. Supple, qui est un homme de sens, qui déclare si j'ai dit la moindre chose qui pût mettre quelqu'un en colère. Mais vous avez à tous égards une si mauvaise tête. Permettez-moi de vous conjurer, madame, dit le curé, de ne pas irriter monsieur votre frère. L'irriter, dit la dame, il faut que vous soyez un aussi grand sot que lui. Allons, mon frère, puisque vous m'avez promis de ne plus vous en mêler, je vais me charger encore une fois de la conduite de ma nièce. Que le ciel regarde en pitié toutes les affaires qui sont sous la direction des hommes. La tête d'une femme en vaut mille des vôtres. Ensuite, elle appela un domestique pour la conduire à la chambre de Sophie et sortit, emportant la clé avec elle. À peine était-elle sur l'escalier que Weston, après avoir d'abord fermé la porte, vomit 20 injures grossières et autant d'imprécations contre elle, sans s'épargner lui-même pour avoir jamais pensé à la succession. Mais, ajouta-t-il, après avoir été si longtemps esclave, il serait fâcheux de la perdre faute d'un peu de persévérance. Elle ne vivra pas toujours, et je sais qu'elle m'a fait par testament son légataire universel. Le curé loua beaucoup cette résolution, et M. Weston, ayant demandé une autre bouteille de vin, ce qui était sa coutume quand il lui arrivait quelque chose qui lui causait du plaisir ou de la peine, effaça tellement jusqu'à la moindre trace de sa fureur, par une copieuse libation de ce julep salutaire, qu'il avait repris toute sa sérénité quand Mrs. Weston rentra avec Sophie. La jeune personne avait son chapeau et son mantelet. Sa tante instruisit M. Weston qu'elle avait le projet d'emmener sa nièce avec elle dans son logement. « Car en vérité, mon frère, ajouta-t-elle, celui-ci n'est pas fait pour recevoir des chrétiens. »« Fort bien, madame, répondit Weston, tout ce qu'il vous plaira. Elle ne peut être en de meilleures mains que dans les vôtres, et le curé ici présent peut me rendre la justice de dire que j'ai répété 50 fois pendant votre absence que vous étiez une des femmes les plus sensées qu'il y ait au monde. Je suis prêt à en rendre témoignage, dit le curé. À cet égard, mon frère, dit Mrs. Weston, je puis vous assurer que j'ai toujours parlé aussi favorablement de vous. Avouez seulement que vous avez un peu trop de vivacité dans le caractère. Mais, quand vous voulez vous donner le temps de réfléchir, je n'ai jamais connu un homme plus raisonnable. S'il est vrai que vous le pensiez ainsi, ma sœur, dit M. Weston, je bois à votre santé de tout mon cœur. Je suis quelquefois un peu colère, mais il est au-dessous de moi d'avoir de la rancune. Sophie, allons, soyez bonne fille, et faites tout ce que votre tante vous ordonnera. Je ne doute point de sa soumission, répondit Mrs. Weston. Elle a déjà sous les yeux l'exemple de cette malheureuse Henriette, sa cousine, qui s'est perdue en négligeant mes conseils. Oh, mon frère, à propos, qu'allez-vous penser? À peine avions-nous cessé d'entendre votre voiture quand vous êtes parti pour Londres, que cet impudent maroufle, avec son odieux nom irlandais, ce Fitzpatrick arriva. Il entra chez moi brusquement, sans se faire annoncer, car autrement je ne l'aurais pas reçu. Il me débita une longue et inintelligible histoire de sa femme, qu'il me força d'écouter. Je lui répondis en peu de mots, et lui remis la lettre de celle-ci, en le chargeant d'y répondre lui-même. Je suppose que la malheureuse tâchera de nous rencontrer ici, mais je vous prie de ne pas la recevoir. Quant à moi, j'y suis bien déterminé. Moi, la recevoir, dit Weston, vous n'avez pas besoin de craindre. Je ne donnerai aucun encouragement à ces enfants rebelles. Il est heureux pour son coquin de mari que je n'ai pas été à la maison. Palsambleu, il aurait dansé dans l'abreuvoir, je vous le promets. Vous voyez, Sophie, à quoi amène la désobéissance. Vous en avez un exemple dans votre propre famille. Mon frère, s'écria la tante, vous n'avez pas besoin de blesser ma nièce par des répétitions aussi odieuses que celles-là. Ne voulez-vous pas me laisser charger entièrement de tout? Bien, bien, j'y consens, dit Weston. Alors Mrs. Weston, heureusement pour Sophie, mit fin à la conversation en envoyant chercher des chaises à porteurs. Je dis heureusement, car si elle eût duré plus longtemps, il se serait probablement élevé quelque nouveau sujet de dissension entre le frère et la sœur, la seule différence qui exista entre eux étant celle du sexe et de l'éducation. Car tous deux étaient également violents et impérieux, tous deux avaient une vive affection pour Sophie et un souverain mépris l'un pour l'autre. Chapitre 5. Dans lequel Jones reçoit une lettre de Sophie et va à la comédie avec Mrs. Miller et Partridge. L'arrivée de Black George à Londres et les bons offices que ce garçon reconnaissant avait promis de rendre à son ancien bienfaiteur étaient une grande consolation pour Jones au milieu de toutes les anxiétés et de toutes les peines qu'il avait souffertes pour Sophie. Il reçut d'elle, par le moyen du dit George, la réponse suivante à sa lettre. Sophie, à qui l'on avait rendu avec la liberté l'usage de la plume, de l'encre et du papier, l'avait écrite le soir en sortant de sa prison. Monsieur, comme je ne doute pas de votre sincérité dans tout ce que vous m'écrivez, vous serez bien aise d'apprendre qu'une partie de mes peines est finie par l'arrivée de ma tante Weston, avec laquelle je suis à présent, et qui me laisse jouir de toute la liberté que je peux désirer. Elle a exigé de moi la promesse de ne voir ni de parler à personne sans qu'elle en soit instruite et sans son consentement. Je lui ai fait solennellement cette promesse et je dois la tenir inviolablement. Quoiqu'elle ne m'ait pas expressément défendu d'écrire, et c'est sans doute un oubli de sa part, ou bien peut-être cette défense est-elle comprise dans celle de ne parler à personne, ne pouvant considérer cela que comme une violation de la généreuse confiance qu'elle a mise en mon honneur, vous ne devez pas vous attendre que je continue à vous écrire ou à recevoir aucune lettre à son insu. Une promesse est pour moi la chose la plus sacrée, et ne doit pas moins s'étendre à tout ce qui y est sous-entendu qu'à ce qu'elle exprime littéralement. Cette observation pourra peut-être, en y réfléchissant, vous apporter quelque consolation. Mais pourquoi vous offrirais-je une consolation de ce genre ? Quoiqu'il y ait un point sur lequel je ne puisse obéir au meilleur des pères, je suis cependant résolu à ne pas le braver et à ne pas agir dans une occasion importante sans son consentement. Cette ferme persuasion doit éloigner votre pensée de ce que le sort a peut-être rendu impossible. Il s'agit ici de votre propre intérêt. Cela même, je l'espère, pourra vous réconcilier avec M. Allworthy. Et dans ce cas, j'exige que vous le tentiez. Les circonstances, et plus encore probablement vos bonnes intentions, m'ont imposé quelques obligations envers vous. Le sort peut nous devenir plus favorable qu'il ne l'est à présent. Croyez que j'aurai toujours de vous l'opinion que j'aime à croire que vous méritez, et que je suis, monsieur, votre obligée et humble servante, Sophie Weston. P.S. Je vous enjoins de ne plus m'écrire, au moins quant à présent. accepter ceci, qui ne m'est maintenant d'aucun usage, et dont je sais que vous devez avoir besoin. Et croyez ne devoir cette bagatelle qu'au hasard qui vous l'a fait trouver. Note, elle veut probablement parler du billet de banque de 100 livres. Un enfant de 4 ans aurait épelé cette lettre en moins de temps que Jones n'en mit à la lire. La sensation qu'il en reçut fut un mélange de joie et de chagrin, assez semblable à celui qui partage le cœur d'un honnête homme en lisant le testament d'un ami qu'il vient de perdre, et qui lui lègue une somme considérable que sa misère le force d'accepter. Au total, cependant, la joie l'emporta sur le chagrin, et le lecteur s'étonnera probablement qu'il en eût même ressenti aucun. Mais le lecteur n'est pas tout à fait si amoureux que le pauvre Jones, et l'amour qui, à quelques égards, ressemble à la consomption, et souvent même en est la cause, lui est, sous d'autres rapports, directement opposé, notamment en ce qu'il ne flatte jamais et n'envisage rien sous un jour favorable. Ce qui lui donnait une satisfaction complète, c'est que Sophie avait recouvré sa liberté et était maintenant chez une dame où elle pouvait au moins s'assurer d'un traitement plus doux. Une autre circonstance consolante pour lui se trouvait dans la phrase de sa lettre où elle lui rappelait assez clairement la promesse qu'elle lui avait faite autrefois de ne jamais en épouser un autre. Car quelque désintéressé qu'il pût croire sa passion pour elle, et malgré toutes les protestations généreuses qu'il lui faisait dans le cours de sa lettre, je doute très fort qu'on eût pu lui annoncer une nouvelle plus affligeante que celle de Sophie mariée à un autre, quelque avantageux que le mariage eût été pour elle, et quand même il eût dû par la suite la rendre complètement heureuse. Ce raffinement d'amour platonique, absolument dégagé des sens, entièrement et purement spirituel, est un don réservé aux femmes. J'en ai entendu plusieurs déclarer, et sans doute avec une grande vérité, qu'elles seraient prêtes à céder leurs amants à leurs rivales, s'il leur était prouvé que ce sacrifice fût nécessaire aux intérêts temporels de leurs sudits amants. D'où je conclus que ce genre de sentiment est dans la nature, quoique je ne prétende pas dire que j'en ai jamais vu un seul exemple. Monsieur Jones, après avoir passé 3 heures à lire et à baiser la sudite lettre, et se trouvant enfin, d'après les considérations dont nous venons de parler, dans un état de satisfaction qui lui était depuis longtemps inconnu, consentit à se rendre à une partie de plaisir à laquelle il s'était précédemment engagé. Il s'agissait d'accompagner Mrs. Mella et sa plus jeune fille à la comédie, et de mettre Monsieur Partridge de la compagnie. Car Jones avait réellement ce goût que tant de gens affectent pour la véritable gaieté, et il se promettait de s'amuser beaucoup des critiques de Partridge, dans lesquelles il s'attendait à trouver les simples mouvements de la nature non perfectionnés, il est vrai, mais aussi non altérés par l'art. Monsieur Jones, Mrs. Miller, sa fille cadette et Partridge se placèrent donc au premier rang de la première galerie. Partridge, à peine assis, déclara que c'était le plus bel endroit où il eût jamais été. Quand l'ouverture fut finie, il dit qu'il était étonnant que tant de violons pussent jouer ensemble sans se nuire les uns aux autres. Tandis que le garçon de théâtre allumait les lustres, il dit tout haut à Mrs. Miller « Voyez, voyez, madame, comme il ressemble à l'homme que l'on voit à la fin du livre de prière, avant le service pour la conspiration des poudres. » Quand tout fut allumé, il ne put s'empêcher d'observer, en poussant un soupir, qu'on brûlait au spectacle autant de lumière dans une soirée qu'il en faudrait pour éclairer une pauvre et honnête famille pendant une année entière. Aussitôt que la pièce commença, c'était Hamlet, prince de Danemark, Partridge fut tout oreille et ne rompit pas le silence jusqu'à ce que le fantôme parut. Alors il demanda à Jones quel était cet homme si étrangement habillé. « Il ressemble, ajouta-t-il, à quelque chose que j'ai vu dans un tableau. Sûrement ce n'est pas une armure qu'il porte là. Dites, monsieur, en est-ce une ?» Jones lui répondit que c'était un revenant. « Oh oui, monsieur, reprit Partridge, avec un sourire, essayez de me persuader de cela. Quoique je ne puisse pas dire que j'ai jamais vu un revenant, je suis sûr que si j'en voyais un, je le reconnaîtrais bien. Non, non, monsieur. Et puis les revenants ne paraissent jamais ainsi habillés. » On le laissa dans cette erreur qui fit beaucoup rire tous les voisins de Partridge, jusqu'à la scène entre l'ombre et Hamlet. Alors Partridge donna à M. Garrick la confiance qu'il avait refusée à Jones, et trembla de tous ses membres avec tant de violence que ses genoux se choquaient l'un contre l'autre. Jones lui demanda ce qui le faisait trembler, et s'il avait peur du guerrier qui était sur le théâtre. « Oh, monsieur, dit-il, je vois bien à présent que c'est ce que vous avez dit. Je n'ai peur de rien, car je sais que ce n'est qu'une pièce de théâtre. Et si c'était réellement un revenant, il ne pourrait me faire aucun mal à une si grande distance, et dans une aussi nombreuse compagnie. Et d'ailleurs, quand je serais effrayé, je ne suis sûrement pas le seul. « Bon, dit Jones, qui crois-tu donc qui puisse être plus poltron que toi ?»« Vous pouvez m'appeler poltron si vous voulez. » Mais si ce petit homme qui est là-bas sur le théâtre n'est pas effrayé, je n'ai jamais vu d'homme effrayé de ma vie. Oui, oui, vous suivre. Oui, assurément. Quel serait donc le sot? Iriez-vous? Que le ciel ait pitié d'une telle extravagance. Vous suivre? Je suivrais plutôt le diable. Eh, mais c'est peut-être le diable lui-même, car on dit qu'il peut prendre toutes les ressemblances qui lui plaît. Oh, le voici encore revenu. Pas plus loin. Oh, vous avez déjà été assez loin, plus loin que je n'aurais été pour tous les domaines du roi. Jones voulut parler, mais Partridge l'interrompit. Paix, paix, mon cher monsieur, ne l'entendez-vous pas? Et pendant tout le discours de l'ombre, il resta la bouche ouverte, les yeux fixés alternativement sur l'ombre et sur Hamlet, les passions qui se succédaient dans Hamlet se succédant également dans Partridge. Quand la scène fut finie, Jones dit « Sais-tu bien, Partridge, que tu surpasses mon attente, tu jouis du spectacle plus que je ne le croyais possible. Monsieur, si vous n'avez pas peur du diable, je ne sais qu'y faire. Mais assurément, il est naturel d'être étonné de pareilles choses, quoique je sache bien qu'il n'y a rien de vrai dans tout cela. Ce n'est pas non plus le revenant qui m'a étonné, car j'aurais bientôt reconnu que ce n'était qu'un homme vêtu d'un habillement bizarre. Mais quand j'ai vu le petit homme lui-même si effrayé, c'est ce qui m'a fait une si vive impression. Tu t'imagines donc, Partridge, qu'il était réellement effrayé? Et quoi, monsieur, n'avez-vous pas observé vous-même, après, quand il a eu découvert que c'était l'esprit de son père, et comment il avait été assassiné dans le jardin, comme sa frayeur l'a quitté peu à peu, comme il est resté muet de douleur, comme qui dirait tout justement comme j'aurais été, si j'eusse été dans le même cas? Mais paix, holà, quel bruit est-ce là? Le voilà encore. Eh bien, quoique je sache de toute certitude qu'il n'y a rien du tout de vrai dans tout cela, je suis bien aise de ne pas être là-bas. Où sont ces hommes-là? Tournant alors de nouveau les yeux sur Hamlet, « Oui, oui, tu peux tirer ton épée. Que signifie une épée contre le pouvoir du diable? » Partridge fit très peu de remarques pendant le second acte. Il admira beaucoup la beauté des habits et ne put s'empêcher d'observer, en fixant le visage du roi, jusqu'à quel point on peut se laisser tromper par la figure. Nulla fides fronti, ne vous fiez pas à la figure, est, je le vois, un proverbe bien vrai. Qui croirait, en regardant le visage du roi, qu'il eût jamais commis un meurtre? Il demanda ensuite si l'on reverrait le revenant. Mais Jones, qui voulait qu'il fût surpris, ne lui fit pas d'autre réponse, sinon qu'il le reverrait peut-être dans peu, annoncé par un éclair. Partridge resta jusqu'à ce moment dans une attente craintive, et quand l'ombre reparut, il s'écria « Le voilà, monsieur, qu'en dites-vous à présent? Est-il effrayé ou non ?» Quelque effrayé que vous puissiez me croire, et assurément personne ne peut s'empêcher de l'être quelquefois, je ne voudrais pas être, pour le monde entier, dans une aussi mauvaise position que celle de « Comment l'appelez-vous ? » ?»« Monsieur Hamlet, bonté du ciel, qu'est devenu l'esprit ?»« Comme il est vrai que j'existe, je crois l'avoir vu s'enfoncer dans la terre. »« Et tu as bien vu, » répondit Jones. « Bien, bien, je sais que ce n'est qu'une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, s'il y avait quelque chose de vrai dans tout ceci, Madame Mellon ne rirait pas comme elle fait. Car, quant à vous, monsieur, vous n'auriez pas peur, je crois, quand le diable serait ici en personne. » Là, là, oui, rien d'étonnant que vous soyez dans une telle colère. Mettez en pièces cette malheureuse coquine. Quand ce serait ma propre mère, je la traiterais de même. Assurément, tout ce qu'on doit à une mère est effacé par une action aussi infâme. Oui, va-t'en, je hais jusqu'à ta vue. » Notre critique garda presque totalement le silence jusqu'au moment de la pièce qu'Hamlet fait représenter devant le roi. Il ne la comprit pas d'abord, mais Jones la lui expliqua, et il n'en eut pas plutôt saisi l'esprit qu'il déclara être bien heureux de n'avoir jamais commis de meurtre. Puis, s'adressant à Mrs. Miller, il lui demanda si elle ne trouvait pas que le roi avait l'air troublé. « Quoi que ce soit, ajouta-t-il, un bon acteur, et qu'il fasse tout ce qu'il peut pour le cacher. » Assurément, je ne voudrais pas avoir autant à répondre que ce méchant homme-là, quand je devrais être assis encore plus haut que lui. Il n'est pas étonnant qu'il s'enfuit. Va-t'en, va, je ne croirai plus à l'innocence de personne sur sa figure. La scène du fossoyeur excita ensuite l'attention de Partridge. Il témoigna beaucoup de surprise du grand nombre de crânes répandus sur le théâtre. Jones lui répondit que c'était le plus fameux cimetière des environs de Londres. « Il ne faut donc pas s'étonner, s'écria Partridge, que la place soit si fréquentée. Mais je n'ai jamais vu de ma vie un plus mauvais fossoyeur. Dans le temps que j'étais attaché à l'église, j'avais un sacristain qui aurait creusé 3 fosses pendant le temps que celui-ci met à en creuser une. Cet homme tient une bêche comme si c'était la première fois qu'il en eût une entre les mains. Oui, oui, tu peux chanter. Tu aimes mieux chanter que travailler, je crois. » Au moment où Hamlet ramasse un crâne, il s'écria encore « Il est vraiment étrange de voir jusqu'à quel point il y a des gens qui ne craignent rien. Je ne pourrais jamais prendre sur moi de toucher à quelque chose qui eût appartenu le moins du monde à un homme mort. Cependant, il m'avait paru tout à l'heure assez effrayé de l'esprit. Nemo omnibus horis sapit. Personne n'est courageux à toute heure. » Durant le reste de la pièce, Partridge ne fit presque pas d'autres observations dignes d'être citées. Jones lui demanda à la fin quel était celui des acteurs qu'il aimait le mieux. Ce à quoi il répondit, comme indigné d'une pareille question, « Le roi, sans aucun doute. » « En ce cas, monsieur Partridge, dit Mrs. Miller, vous n'êtes pas de la même opinion que toute la ville, car on convient généralement que le rôle d'Hamlet est joué par le meilleur acteur qui ait jamais paru sur le théâtre. » « Lui, le meilleur acteur, dit Partridge, avec un ricanement dédaigneux, je jouerais tout aussi bien que lui. Je vous assure que si j'avais vu un esprit, il aurait produit le même effet sur moi et que vous m'auriez vu faire absolument la même chose. Et puis, dans cette scène, comme vous l'appelez entre lui et sa mère, où vous me disiez qu'il avait si bien joué, que le ciel me bénisse. Y a-t-il un homme, c'est-à-dire un honnête homme, qui, ayant une telle mère, n'eût fait exactement la même chose ? Je sais que vous ne voulez que vous moquiez de moi. Mais, madame, quoique je n'ai jamais été au spectacle à Londres, j'ai pourtant vu jouer la comédie en province. Je gage tout mon argent pour ce qu'a joué le roi. Il prononce tous ces mots distinctement, et une fois plus haut que l'autre. Tout le monde peut voir que c'est là un acteur. » Pendant que Mrs. Miller était engagée dans cette conversation avec Partridge, une dame s'approcha de Jones, qui la reconnut sur le champ, pour Mrs. Fitzpatrick. Elle lui dit qu'elle l'avait vue de l'autre côté de la galerie et saisissait cette occasion de lui parler, attendu qu'elle avait quelque chose à lui dire qui pourrait lui être fort utile. Elle lui donna alors une adresse et un rendez-vous pour le lendemain matin. Par réflexion, elle le remit ensuite à l'après-midi et Jones lui promit de s'y rendre. Ainsi finit l'aventure du spectacle où Partridge avait beaucoup diverti non seulement Jones et Mrs. Miller, mais encore tous ceux qui étaient à portée de l'entendre et qui étaient plus attentifs à ce qu'il disait qu'à ce qui se passait sur le théâtre. Il n'osa pas se coucher cette nuit-là de peur de l'esprit, et pendant plusieurs autres, il sua de frayeur 2 ou 3 heures avant de s'endormir, et se réveilla nombre de fois, frappé de terreur, en s'écriant « Le ciel ait pitié de nous, le voilà !»